بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. نوح عليه السلام a prêché, a invité son peuple vers le tawhid pendant 950 ans et il a utilisé tous les moyens, toutes les façons de procéder pour inviter son peuple vers Allah Azza wa Jal, invitation en public, invitation individuelle, parler bien sûr avec sagesse, avec hikmah. Mais malgré cet engagement de la da'wa, malgré le sérieux et la piété de Nuh alayhi salam, peu de gens, très peu de personnes ont suivi Nuh alayhi salam dans sa prêche. Et là, nous sommes arrivés à ce point de l'histoire où Nuh alayhi salam a déjà rappelé à son peuple comment Allah azza wa jalla a créé les cieux, la terre, le soleil, la lune. C'est-à-dire que le tawhid rububiyya, tout ce qu'Allah a créé pour que son peuple réalise que celui qui a tout créé, ben lui seul mérite d'être adoré. Et il est arrivé à un point où malgré tous ses arguments, son peuple ne le suit pas. Et à cet instant, Nuh alayhi salam s'adresse à Allah azza wa jal et les versets que nous venons de lire, Noé dit: « Ô Seigneur, ya Allah, ils m'ont désobéi. » C'est qui ils? Mon peuple. Et vous savez que les Anbiya, alayhim salat wa salam, étaient toujours envoyés parmi leur propre peuple. « Wa ila adin, akhahum huda. Wa ila thamuda, akhahum saliha. Wa ila madiana, akhahum shu'aiba. » Pourquoi? Parce que le cœur du da'iya, celui qui invite vers Allah, son cœur doit être attaché à la Ummah. Il faut qu'il y ait la muhabba entre celui qui prêche et les personnes qui sont en face de lui. Il faut qu'il ressente qu'il y ait un point commun, qu'il y ait un lien, que ce soit un lien de sang, un lien de tribu, de qabila, que la personne qui prêche doit être attachée profondément aux personnes qui sont en face de lui, ressentir la muhabba et que sa da'wa, ben il le fait avec sincérité, motivation et vraiment désir de guider pour ces gens. Et donc, quand Nuh alayhi salam voit son peuple lui tourner le dos, ça le fait très mal. Ça le fait très mal, pas parce que ce n'était pas une question de fierté, ce n'était pas une question d'honneur, ce n'est pas parce que, voilà, je suis prophète, eux, ce sont mes personnes, qawmi, et ils doivent m'obéir et ils me doivent du respect. Ce n'était pas du tout ça. Nuh alayhi salam est attristé parce qu'il sait pertinemment qu'Allah a déjà prévu un châtiment. Le châtiment est déjà prédestiné. C'est comme si que le châtiment, là c'est moi qui dis, hein, c'est moi qui rajoute, hein, c'est comme si que le châtiment il est suspendu au niveau des cieux et Allah Rabbul Izza attend, et Allah connaît déjà, quelle va être la décision du peuple de Nuh alayhi salam pour voir s'il demande à cette tempête, ce déluge de s'abattre sur son peuple ou alors Allah éloigne le azab, éloigne le châtiment. Et Nuh alayhi salam, lui ne sait pas encore quelle va être la décision de son peuple. Allah sait déjà que le peuple va refuser la prêche de Noé, de Nuh alayhi salam, mais Allah demande quand même à cet homme d'aller les appeler vers le haqq. Et c'est la sunnah d'Allah de donner la possibilité à l'homme de faire ses propres choix. Et l'homme cogite, l'homme réfléchit, l'homme décide de prendre un chemin et le chemin qu'il a pris, c'est ce qu'Allah avait prédestiné. Mais Allah a prédestiné par rapport à leur choix. Et une décision est liée à l'autre. Et c'est là que, comme on l'avait déjà dit en introduction, c'est là que la compréhension humaine a ses limites. C'est là qu'on s'arrête d'essayer de tout comprendre parce que nous réalisons que c'est là le décret divin. Et décret divin se repose également sur le choix de l'homme. Et le choix de l'homme dépend du décret divin et ainsi de suite. Donc, Nuh alayhi salam est extrêmement attristé de voir le refus de son peuple. Et il dit à Allah Azza wa Jal, il se plaint de ce peuple qui ne veut pas l'obéir. Seigneur, oh Allah, ils m'ont désobéi et ils ont suivi celui. Alors, c'est mal traduit. C'est pas celui mal lam yazid huma aluhu. Enfin, ceux dont les biens et les enfants n'ont fait qu'accroître la perte. Nuh alayhi salam dit que mon peuple ne m'obéit pas et ils ont préféré suivre d'autres personnes. Et ils ont suivi qui? Les Ashraf, les Sadat, les notables du peuple de Nuh alayhi salam qui eux n'étaient pas d'accord avec cette prêche. Qui eux n'étaient pas d'accord et ils voulaient que le peuple continue à les suivre. C'est exactement comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, avait parmi son peuple des personnes influentes. Et ces personnes influentes, ben, ils contraient sa da'wa. Qui étaient ces personnes influentes? Abu Jahl. Qui d'autre? Abu, au début, Abu Sufyan, Abu Lahab. D'accord? Ces personnes qui étaient des chefs, ben, ils ont persuadé les gens de Mecca de ne pas suivre la prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Kathir rahimahullah nous explique, yaqulu ta'ala mukhbiran an Nuh alayhi salam, Allah azza wa jal relate l'histoire de Nuh alayhi salam, parce que bien sûr le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas savoir ce qui s'est passé des siècles et des siècles, je sais pas, des milliers d'années avant, au moins 1000 années avant, le prophète ne pouvait pas savoir. C'est là une preuve de plus de la véracité du Coran qu'Allah Azza wa Jal révèle au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec précision et exactitude quels étaient les événements successifs dans l'histoire de tous les prophètes alayhi wa sallatu wa sallam. Et donc Ibn Kathir dit que Allah Azza wa Jal relate le récit de Nuh alayhi salam que Nuh s'est plaint à son Seigneur, wa huwa al-alim, alors que Allah sait déjà. Allah sait pertinemment qu'est-ce qui se passe entre Nuh et son peuple. Annahu ma'al bayani wa da'wati al-mutanawwi'ati al-mujtamilati 'ala at-targhib taratan wa at-tarhib ukhra, que malgré une prêche appuyée, une prêche sincère, une prêche variée entre le tarhib, l'incitation, et le tarhib, la mise en garde, annahum asawhu wa kadhabuhu wa khalafuhu, qu'ils ont démenti, ils ont refusé sa prêche et ils l'ont traité de menteur. Et ils ont pris le chemin inverse et ils ont suivi abna ad-dunya. Qui est-ce qu'ils ont suivi? Abna ad-dunya. C'est qui abna ad-dunya? Littéralement, comment on va traduire? Un noir, abna ad-dunya. Les fils de ce dunya. Mais ça veut dire quoi? Abna ou dunya? Toutes les personnes qui t'invitent. Ta'al, ta'al, foulous. Anta yabra foulous. Foulous fait. Ah, tu veux de l'argent. Tu veux les biens. Tu veux la notoriété. Tu veux al-izza, l'honneur. Tu veux. Et ainsi de suite. Ta'al. Ça, on te donne. Ça, c'est abna ou dunya. Il y a des gens qui, malheureusement, suivent abna ou dunya. Et ils ne comprennent pas que abna ou dunya. Soit c'est ce dunya qui te quitte, soit c'est toi qui quittes ce dunya. Subhanallah, aujourd'hui on a perdu un jeune de grande valeur. Et je me permets de citer son nom. Je pense avoir l'accord de sa maman. C'est Arshad, Hafez Arshad Atia qui nous a quitté aujourd'hui. Un jeune homme de 35 ans. Brillant. Brillant. Il étudiait, si je ne me trompe pas, à la Sorbonne. Études islamiques. Et je crois que la dernière fois que j'ai vu, il avait fini son master, il devait être en doctorat, il me semble. Il était donc au Maroc. pour la langue arabe. Ça fait partie de son cursus, la maîtrise de la langue d'un pays arabophone. Et il est mort de mort naturelle. C'est un terme. Allah a demandé à l'ange de la mort de reprendre son âme. Jeune, pas encore marié, étudiant. Et vous savez, mes chers frères, qu'il soit étudiant de din à Madina Munawwara, à Mecca, en Inde, au Pakistan, en Égypte, en Angleterre, ou à la Sorbonne, son but c'était quoi? D'apprendre la religion. Il était dans un cursus de talabul ilmi. Après, bien sûr, avec du recul, il sait pertinemment qu'est-ce qui est compatible, qu'est-ce qui n'est pas compatible. Mais ce qu'on retient, c'est que c'était un jeune qui était dans un parcours religieux et qui était brillant, très intelligent. Il aurait pu, avec ses capacités, il aurait pu faire Sciences Po, il aurait pu faire HEC, c'est-à-dire une autre voie. Non, il a choisi les études islamiques. Et j'avais espoir en lui. Ce qu'on échangeait, quand il était de passage à La Réunion, il venait toujours nous voir à Saint-Clotilde pendant le mois de Ramadan, après la Salat ou Tarawih, et on parlait. Et le niveau de discussion était très élevé avec lui. C'est quelqu'un qui avait, mashallah, une compréhension ajib. Et on avait espoir qu'un jour, il sera diplômé, il pourra apporter un souffle nouveau. Ce serait une autre approche. Et c'est une da'wa qui aurait pu être profitable. Parce que nous sommes quoi? Nous sommes des imams, on va dire, en guillemets, d'accord? Donc notre da'wa, elle est un peu limitée à la communauté. Mais quand on a quelqu'un de diplômé de la Sorbonne avec un doctorat, c'est une prêche qui devient intéressante pour les gens qui ne sont pas musulmans, d'accord, qui n'auront pas de mal à aborder quelqu'un qui a un doctorat en sciences islamiques. Peut-être le contact aurait été plus facile qu'avec un imam comme nous. Lakin, ماذا نقول؟ قدر الله وما شاء فعل. نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. Qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wa salam avait dit à l'émissaire qui était venu lui annoncer la mort de, je ne sais plus si c'était son fils ou son petit-fils? Il a dit que, si les termes me reviennent, c'est Dariyad al-Salihin. Si quelqu'un connaît le hadith, le début, subhanallah, le début du hadith ne nous revient pas, que Allah nous a tout donné et quand il reprend, lillahi ma a'ta, lillahi ma a'ta. وَلَهُ مَا أَخَذَ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى. Ce que Allah te donne, ça lui appartient, ça. Il t'a donné des enfants. فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ. C'est Allah qui t'a donné. Il t'a donné les biens. فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ. Il t'a donné une famille, une épouse. فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ. Il t'a donné la santé. Alhamdulillah. نِعْمَ مِنَ اللَّهِ. Allah te donne sans que tu aies demandé. لله ما أعطى وله ما أخذ. S'il reprend, ça lui appartient. وكل شيء عنده بأجل مسمى. Et tout ce qui existe est, le sens du verset du hadith, est inscrit auprès de lui pour une durée limitée. أخي في الله. L'ange apporte le ruh dans l'embryon, le ventre de la maman. La date du décès est déjà écrite dans le destin de l'embryon. Dans son destin, c'est déjà écrit. Il viendra en ce monde telle année, 2005, 2010. Il va mourir à telle année, 2050, 2070. Allah seul le sait. Biajali Musamma. Tout est prédestiné, encadré pour une période fixée. Et le prophète avait dit à sa fille, Fasbiri wahtasibi, et fais preuve de patience. Et recherche la rétribution auprès d'Allah Azza wa Jal. Et c'est ce message qu'on fera passer, véhiculer à toutes les familles qui perdent un proche, mais principalement cette personne, parce que c'était un ami, une personne que j'aimais beaucoup, et que sa maman, qui doit être perturbée, perdre un enfant de 35 ans, c'est terrible, c'est terrible. Et qu'Allah lui accorde. Qu'Allah lui accorde la force spirituelle et la force psychologique pour rester ferme et forte dans l'épreuve, et que cette épreuve soit pour elle son Jannah, que cette épreuve soit pour elle son entrée dans le paradis, et qu'Allah permet à cette dame de retrouver son enfant, le père de son enfant et ses autres enfants dans son Jannah, Jannat Adn, yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim. Ce paradis où entreront, se retrouveront les ascendants, les époux et épouses, ainsi que les descendants. Mais à condition qu'ils aient les qualités. Wa man salaha. À condition qu'ils aient les qualités. Hada. Nous revenons vers l'histoire de Nuh alayhi salam. Je ne sais pas comment on est arrivé à là. On a dit donc que wattaba'u abna ad-dunya, et ils ont suivi les gens du dunya qui les a donc invités vers d'autres choses, d'autres valeurs qui n'étaient pas la prêche de Nuh alayhi salam. Et les ulama rahimahumullah, ça c'est pas Ibn Kathir, ça c'est d'autres savants qui disent que l'épreuve la plus terrible qui peut toucher un être humain, ce n'est pas l'épreuve qui le touche dans sa santé, ni dans ses enfants, ni dans ses biens. L'épreuve contre laquelle nous devons demander protection, parce que ça, il ne faut pas que ça nous touche, c'est al-fitnatu fid-dini. C'est quand tu es éprouvé dans ta foi. C'est quand il y a une faiblesse de iman et que la personne doute ou s'éloigne de la religion. Ça, c'est la pire des choses. Et qu'Allah nous protège et protège nos enfants. Akh ikhwan fillah, il n'y a rien de plus important que al-thabat fid-din wal-istiqam 'ala as-sirat al-mustaqim. Il n'y a rien de plus important que de rester ferme dans le din, dans la religion, et qu'Allah nous garde dans le droit chemin. Après, vous pouvez dire, on pourra dire ce qu'on veut. Les gens pourront crier, dire des choses, critiquer, pointer du doigt, diverger, dire que lui, il est tel groupe, il est tel groupe. Ce n'est que du vent. Plus important, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dans ton cœur, et que tu vis le kalimatul tawhid, et tu avances et que tu meurs avec kalimatul tawhid. Qu'Allah nous accorde husnul khatima. Donc la pire des épreuves, c'est celle qui touche ton iman et ta foi, et qu'Allah nous protège. Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, disait à propos des épreuves que lorsque Allah m'éprouve par une quelconque difficulté, je remercie mon Seigneur qui ne m'a pas atteint d'une autre façon. Premièrement, il explique quelles sont ses priorités. Premièrement, il remercie Allah parce que l'épreuve aurait pu être plus difficile, mais Allah était clément et l'épreuve est supportable. Et parmi les différents, on va aller droit au but, à l'essentiel donc, parmi les notions que Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, jugeait essentielles dans l'épreuve, c'était le fait que l'épreuve ne touche pas son dîn. Remercie Allah que tu as envoyé une épreuve, mais cette épreuve-là ne touche pas mon dîn, ne touche pas ma pratique de la religion. Maintenant, après ce qu'on vient de vous dire tout à l'heure, ce qu'on a vu ensemble, imaginez la douleur de Nuh alayhi salam quand il voit son peuple lui tourner le dos. Et que ce peuple qui tourne le dos, qu'est-ce qui va leur arriver? Le châtiment divin. Il sait que ces gens-là, ils vont être détruits par Allah Azza wa Jal du premier jusqu'au dernier. Comment est-ce qu'il est attristé? C'est la tristesse de notre Habib sallallahu alayhi wa sallam qui se voit chassé de la ville de Taïf. Lorsqu'il est parti inviter les Banu Thaqif et qu'il y a eu la réaction qu'on connaît dans la sirat, le prophète alayhi salat wa salam était attristé, pas par ce qu'ils ont fait, pas par leurs agissements. C'était pas le sang qui coulait qui attristait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'était pas les insultes, ce n'était pas la méchanceté et l'insolence de ce qawm, de ce peuple de Banu Thaqif. C'était le refus du haqq, le fait qu'ils aient refusé la vérité. Et Al-Nabi alayhi salatu wa salam était وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ça avait été une bénédiction pour les mondes. C'est-à-dire que le prophète salam aimait de façon intense chaque personne, chaque être humain. Et le fait que les Banu Thaqif avaient tourné le dos, le prophète savait quel allait être leur sort. C'est pour ça que le prophète salam n'a pas précipité leur châtiment. Vous connaissez l'histoire? L'ange des montagnes avait dit au prophète d'Allah, si tu le souhaites, un jeune homme, raconte-moi la suite. Tu as la madrasa ici? Hein, qu'est-ce qu'il a dit l'ange de montagne? Ah, faut réviser les cours là. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit l'ange de montagne? Le PSG va jouer contre qui en huitième de finale? Ligue des champions. Hada soual. Le prophète alayhi salatu wassalam, mais il est courageux, mashallah. Barakallah fik. Allah élève ton grade et te donne la connaissance. Le prophète alayhi salatu wassalam avait reçu la visite de l'ange des montagnes, dit: oh prophète d'Allah, si tu me le demandes, je réduis en poussière ce peuple bainal. Il y avait un terme, bainal akhshabain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accepté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas la mort des gens. Il ne voulait pas la destruction de son, de sa umma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait doua, ya Allah, qu'Allah guide à la future génération. Et on connaît l'histoire de Taïf, elle est extraordinaire. C'est en l'an, en quelle année les gens de Taïf sont venus vers l'islam? J'ai un doute. Il me semble que c'est en l'an 8. Il me semble que c'est en l'an 8 de l'Hégire. C'était à Médina, c'est clair. Le prophète avait envoyé une armée pour attaquer Taïf. Pourquoi? Parce que les Banu Thaqif avaient participé à une campagne commune contre les... On est hors sujet là. Ils avaient participé à une campagne commune contre les musulmans. D'accord? Et les musulmans ont eu le dessus et les ennemis ont fui. Et les Banu Thaqif sont retournés où? Ben, à Taïf. Et donc, il a envoyé une armée pour poursuivre les ennemis jusqu'à leur ville respective. Et arrivé à Taïf, les Sahaba ont vu que les gens de Taïf étaient dans une cité extrêmement bien protégée. Et ils étaient armés extraordinaires. Personne ne pouvait entrer à Taïf. Il y avait des portes. Les villes avant avaient des portes et des murs très hauts. D'accord? Et ils étaient armés et c'était impossible. Et à un moment donné, le prophète alayhi salatu wassalam, Dieu Sahaba, après le siège, a duré je ne sais plus combien de jours, mais à un moment donné, il y a eu beaucoup de pertes aussi du côté des Sahaba. Le prophète a dit aux Sahaba, maintenant on retourne à Makkah. Et certains Sahaba ne voulaient pas retourner. Il a dit au prophète d'Allah, on essaiera encore demain, s'il te plaît. Accorde-nous l'autorisation, encore une journée. Et le prophète alayhi salatu wassalam leur a accordé une journée. Et là, il y a. Là, c'est un hors-sujet du hors-sujet. Là, il y a une latifa, kalam, ulama, qui est nafis, jiddan, un savant contemporain qui dit que, imaginez, c'est pas un hadith, hein, c'est une déduction. Je pense qu'on peut être tous d'accord avec cette déduction. Imaginez les sahaba qui ont obtenu l'accord du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on vous donne une dernière chance demain, essayez encore de percer et d'entrer à Taïf. Certainement, connaissant le degré de iman des sahaba, certainement ils ont fait doua toute la nuit, oui ou non? Même s'il n'y a pas de texte qui le dit, on peut comprendre que les sahaba ont demandé à Allah son aide pour que demain, ya Allah, on puisse entrer à Taïf et terminer et faire ce qu'on a à faire et avoir le dessus sur nos ennemis. Ça, c'est cohérent. Et il dit que des fois, tu demandes un doua avec cœur, de façon intense, et peut-être même dans un endroit béni. Quelqu'un va faire doua au niveau du multazam, Allahumma ja'alna minhum, près de la Kaaba. Quelqu'un va faire doua à Arafat. Quelqu'un fait doua pendant la nuit du destin. Ce sont des moments exceptionnels. Là, les sahaba, ils sont fi sabilillah, oui ou non? Oui ou non? Bah oui, ça c'est fi sabilillah. Hada. Ils sont dans le chemin d'Allah. Ils font doua. Certainement, ils ont dû faire le de tahajjud. Vous imaginez pas un sahaba qui rate qiyamul layl. C'est pas nous, hein, citoyens 2019. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Quand Allah a décidé que quelque chose que tu demandes n'est pas bon pour toi, il n'y a pas un khair, tu pourras demander autant que tu veux, de toutes les façons que tu veux, là où tu veux, le doua ne sera pas accepté. Il a été accepté par Allah d'une autre façon. Allah ne t'accorde pas ce que tu as demandé exactement, mais on connaît le hadith qui stipule que quand un mu'min fait doua, il y a trois façons. Soit Allah te donne ce que tu veux, soit Allah te garde en compensation une quantité de hasanat, de bonnes œuvres, de récompenses que tu trouveras de l'au-delà. ou alors Allah éloigne un bala. Allah peut éloigner quelque chose qui t'était prédestiné, quelque chose de mauvais qui aurait pu t'arriver. Ça veut dire que Shafi, il ne faut jamais arrêter de faire du'a. On va faire du'a pour Shafi, qu'Allah lui accorde une épouse vertueuse. Aminu ya mashaykh, qulu amin, qu'il se marie en 2019. C'est un bon garçon ça. Jamais arrêter de faire du'a. Parce que les du'as sont acceptés tant que le croyant ne dit pas. Qu'est-ce qu'il ne faut jamais dire? Da'outu falam yustajabli. Ça, il ne faut jamais dire. J'ai demandé, mais Allah n'a jamais accepté. C'est-à-dire que quand tu dis ça, le hadith le stipule, quand tu le dis, c'est là qu'Allah n'accepte plus. Imagine Shafi, notre ami, notre jeune, notre invité, depuis 5 ans, imaginons, hein, il fait du'a après chaque salah. Ya Allah, accorde-moi une épouse vertueuse. 5 fois par jour. Pendant 5 ans, je ne suis pas très fort en calcul mental, fois 360, bref, ça fait beaucoup. Hein. On va dire il a fait 50 000 fois cette formule, ce du'a. Ya Allah, accorde-moi une épouse vertueuse. Tu n'as pas dit amin, toi, tu es marié. Qui c'est qui a dit amin, là? Ceux qui sont mariés n'ont pas le droit de dire amin, là. Et que 50 000 fois, il a demandé en 5 ans, subhanallah, et qu'à l'instant, il n'est toujours pas marié. Ce ne sont pas des du'as perdus. Ce n'est pas comme on dit une balle perdue ou de l'argent perdu. Non, non, non. Quand on s'adresse à Allah, rien n'est perdu. C'est-à-dire que quand Allah a décidé de ne pas te donner l'objet de ta demande, Allah te donne autre chose, mais en hasanat. Et les hadiths, si on va plus loin, disent que le jour de Qiyamah, une personne trouvera des montagnes de récompenses dans ses actions. Elle dira, ya Allah, ces bonnes actions ne m'appartiennent pas. Ce n'est pas à moi ça. Je suis honnête, hein, pas à moi. Et on lui dira que, le sens du hadith, hein, que c'était les du'as que tu demandais de ce dunya et qui n'ont pas été exaucés. Et là, la personne aurait souhaité qu'aucune de ces du'as n'ait été exaucée pour avoir encore plus de risques. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais s'arrêter de faire des du'as. Même si c'est une situation, j'aime pas utiliser ce mot, entre guillemets, désespérée, continue à faire des du'as. Si un médecin te dit, tu ne pourras, ou ta femme ne pourra jamais avoir d'enfant. Le médecin te dit, Ibn Adam, être humain. Mais toi, quand tu pries, quand tu lèves tes mains, demande à ton Seigneur. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Inna Allah ala kulli shay'in wakil. Innama amruhu idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Ça, c'est plus fort que l'analyse, que l'échographie, que les radios. C'est plus fort que tout. Il demande, n'arrête jamais de demander. Quand un médecin te dit cette maladie-là, elle est incurable. Cet enfant restera malade toute sa vie. Ibn Adam yaqul. Qui envoie l'épreuve? Qui retient l'épreuve? Qui donne la vie? Qui donne la mort. Alladhi khalaqa al-mawta wa al-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Celui qui a organisé cette vie et qui a décrété que la vie, c'est lui qui donne et c'est lui qui reprend, 'ala kulli shay'in qadir, est capable de tout. Et sache que autant tu vas demander avec persévérance, avec insistance, avec conviction, avec engagement, avec yaqin, tu y crois, peut-être qu'un jour ton Seigneur te l'accordera. Et si Allah a décidé de ne pas te le donner, sache que ce qu'il te réserve dans l'au-delà, c'est bien au-delà, c'est beaucoup mieux que ta propre demande. Que ce qu'il est capable de te donner, ça dépasse de loin le bonheur que tu aurais eu en voyant ta demande se concrétiser. Et ça, c'est le iman du mu'min. Ça, c'est la foi du croyant. Et c'est son rida bil qada'i wal qadri. C'est son acceptation. C'est son istislam ou lillah, sa soumission à Dieu et sa soumission au décret divin. Que même si jamais Allah ne me donne ce que j'ai demandé, ben cela émane de sa sagesse. Et Allah, il connaît mieux. Et Allah Alimun bidati sudur. Et Allah connaît, il est latif, il est bienveillant, il sait ce qui est meilleur pour nous, et ce qui nous prédestine, c'est toujours mieux. Comment on est arrivé loin comme ça? Qui nous ramène où on était? Ainsi donc, Taïf, barakallahu fik. Quand on dit Taïf, on pense à quoi? À quel fruit? Les raisins de Taïf. Vous n'avez jamais mangé de raisins de Taïf? Qu'Allah vous y amène, Inch'Allah. Mais bon. Bon, après, par Taham, je vais dire les raisins de Madina sont meilleurs. D'accord? Ça, c'est normal. Je ne peux pas dire que les raisins de Taïf sont meilleurs. Impossible. Et donc, par Ta'assoub. Et lorsqu'Allah a décrété qu'un doua ne sera pas exaucé, ben Allah décide, et c'est sa décision. Mais toi, ne désespère pas. Et quand tu vois que ta demande n'a pas été exaucée, la tayas, wa la tahzan, ne sois pas attristé et ne perds pas confiance en ton Seigneur. Sache que le décret divin est mieux. Je vais aller plus vite parce qu'on n'a pas mis de chronomètre. Et donc, Nuh alayhi salam, pas encore. Et donc, après cette tentative des Sahaba pour récupérer Taïf, qui n'a pas marché, encore un échec, ils sont retournés. J'ai un doute, est-ce qu'ils sont retournés à Makkah ou à Madina directement, ou ils sont passés à Makkah? Il faut revoir le livre de la Sirat. Et quelques temps après, les gens de Taïf sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Madina. Il dit au prophète d'Allah, « Nashhadu an la ilaha illallah, wa nashhadu anna Muhammad rasulullah, wa nashhadu annaka rasulullah. » Hidayah biyadillah, guidé dans les mains d'Allah. Et ça, c'est la concrétisation du doua qui a été fait depuis le Ahd Makki, dans la souffrance, dans les larmes, dans la douleur et dans le sang. Ya Allah, donne la guidée aux futures générations. Parce que si les musulmans avaient conquis Taïf, le doua du Prophète n'aurait pas été exaucé. Le Prophète n'a pas demandé à Allah que les gens de Taïf capitulent un jour, qu'ils déposent les armes. Non! Ou Allah donne-le à la guidée. Et Allah leur a accordé la guidée. Quand ils viennent voir le Prophète, leur cœur est déjà guidé. Dit, nous attestons qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah. Ça, c'est le doua du Prophète. Et ça montre qu'il y a une situation initiale, Taïf, au début. Il y a une situation finale, le guidé. Entre les deux, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Tu montes, tu descends, tu demandes, tu essaies, tu fais des efforts, tu vas à droite, à gauche. Ce qu'Allah a prédestiné, a prédestiné. Mais tous tes efforts, ils ne sont pas en vain. Tout est dans ton mizan et hasanat, dans ton livret d'action. Ainsi, Nuh alayhi salam est attristé par son peuple qui lui tourne le dos. Mais certainement, la plus grande douleur de Nuh alayhi salam, ça on en avait parlé il y a deux semaines, c'est de voir son propre fils qui suit Al-A'da. Et il sait pertinemment que son fils qui n'accepte pas le tawhid va périr comme le reste de son peuple. Et il a un peu d'espoir et il va invoquer Allah. Et on avait cité les versets la dernière fois, on ne va pas répéter que c'est mon fils, et Allah lui dit que non, c'est pas ton enfant parce qu'il a désobéi. Et Nuh alayhi salam finit par accepter. Et donc la plus grande difficulté, la plus grande des épreuves qu'Allah nous protège, c'est être éprouvé dans sa foi et être éprouvé dans sa chair. C'est quand un membre de la famille s'éloigne du din. C'est pas que quand un membre de la famille est éprouvé par la maladie. Oui, ça aussi c'est difficile. Allah nous protège. Il faut jamais souhaiter des épreuves. Hein. Même si ça apporte beaucoup, il faut pas souhaiter. Mais qu'on te dise que telle personne de ta famille est tombée malade ou il y a eu un accident, il y a eu tel problème, c'est des choses. C'est le destin, c'est difficile, mais ce n'est pas désespéré. Mais quand on dit que telle personne a quitté la religion ou a arrêté de pratiquer, ça c'est terrible. Parce que combien de temps on souffre dans ce monde? Combien de temps? On peut souffrir 20 ans, 30 ans, jusqu'à la mort. Mais là-haut, il y a une délivrance. Mais quand la personne quitte la religion ou arrête de pratiquer, nasallallahu alayhi wa sallam, ben les conséquences sont dans ce dunya et les conséquences sont éternelles dans le-delà. Et donc ce Nabiullah, ce prophète d'Allah, Nuh alayhi salam, grande est sa peine lorsqu'il voit son fils suivre le chemin de son peuple qui a refusé d'attester qu'il est le prophète d'Allah et qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah Azza wa Jal. On s'arrête à la prochaine fois, Inch'Allah. On va reprendre, Inch'Allah, la prochaine fois jusqu'au jusqu'au mois de janvier, hein, jusqu'aux vacances. Kalandan Istiqama et Tawfiq. On a espoir, normalement ça va se faire, de finir le tafsir de la sourate Nuh avant la fin de l'année, Inch'Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifoun. Avant de compléter, on n'a pas terminé les doigts pour ce jeune Achad qui nous a quitté, on a juste parlé de la situation. On fait doigt qu'Allah Azza wa Jal l'accepte, accepte son âme, et que son âme monte à chaque ciel jusqu'à être en prosternation devant Allah Azza wa Jal, et que son âme retourne dans son corps et dans la tombe, et qu'il puisse répondre aux questions des anges avec facilité, et que sa tombe soit un jardin du paradis, et que de cette tombe il a la vision de sa future place, inshaAllah, dans le Jannah. Huma tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan.